nous rassembler ce matin et veuille nous parler, veuille aussi toucher nos cœurs, nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire. Que ton nom soit glorifié car tu es Dieu, notre Dieu. Au nom de Jésus, amen. Le thème de notre message ce matin, frères et sœurs, c'est le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. On peut, sans chercher dans le dictionnaire, on peut définir le mot secourir comme venir en aide. Mais dans le contexte de ce message, je veux que vous voyez ce mot au-delà de cette définition pour inclure surtout la délivrance quand il s'agit de notre Dieu. Nous bénéficions chaque jour le secours de l'Éternel. Et en première partie, nous allons voir que historiquement, le secours de l'Éternel était une réalité. Et la Bible nous montre plusieurs exemples de secours de l'Éternel en faveur de son peuple, en faveur de ses enfants. Au-delà de cet aspect historique, en deuxième partie, nous allons voir que ce secours de l'Éternel est encore une réalité. Donc c'est ce que j'appelle la prolongation contemporaine du secours de l'Éternel. Et cette deuxième partie, nous allons pour voir concrètement, clairement, nous allons entendre quelques témoignages. Je vais contacter quelques personnes pour donner le témoignage précis, le témoignage réel et concret de le secours de l'Éternel qui sont bénéficiaires. J'avais contacté trois personnes pour voir dans cette partie le secours de l'Éternel devant la maladie, dans une situation de l'accident de voiture et face au voleur à main armée. J'avais demandé à notre sœur Morissette de faire partie de ces trois personnes pour donner son témoignage, comment le Seigneur l'avait secouru dans le cadre de sa maladie. Et ce matin, à 9h moins le quart, il m'a téléphoné pour dire qu'elle parte aux urgences alors qu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas au culte. Qu'est-ce que je fais? Je cherchais, je me dis, qui dans l'église qui a encore un témoignage le secours de l'Éternel dans le cas de maladie? J'ai pensé à notre frère Renaud. J'ai téléphoné à Renaud à 9h05 pour dire, frère, est-ce que tu peux remplacer Morissette pour donner porter ton témoignage de comment l'Éternel t'avait secouru? Voilà. Concernant les enfants d'Israël, je vous invite, frères et sœurs, à regarder Exode chapitre 1. Nous savons tous que les enfants d'Israël étaient installés en Égypte. depuis longtemps. À vrai dire, ils sont restés 430 ans en Égypte. Selon ce que l'information que la parole de Dieu nous donne. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est cet aspect de secours que l'Éternel a porté à son peuple pour les faire sortir. Exode chapitre 2. Chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il se vient une guerre, il ne se joint à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée avant de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et croissait, et l'on prit en affection les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Et par tous les ouvrages des champs, etc., avec cruauté, qui leur imposait toutes ces charges. Verset 23, le chapitre 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et pousser des cris. Ces cris que les arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les cieux des enfants d'Israël et ils n'ont eu compassion. La série, c'était vraiment traité durement. Ils souffraient. Ils vivaient dans la souffrance intense. La cruauté des Égyptiens. Si vous voulez corvée. Et c'est dans cette situation, dans cette condition, qu'ils ont crié à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous rassure que l'Éternel a entendu. De savoir que ils ont vécu pendant si longtemps en Égypte. 430 ans en Égypte. Et de savoir aussi que l'Éternel, pendant tout ce temps, était toujours sur le trône. Ce qui montre que le secours de l'Éternel, ce n'est pas forcément quelque chose qui n'arrive tout de suite. Mais c'est quelque chose que nous pouvons être sûrs qu'il ne manque pas. C'est pour ça que la bonne nouvelle que je vous dis ce matin, frères et sœurs, c'est que Dieu, notre Dieu, peut nous secourir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il a les moyens, il a le pouvoir, il a l'autorité de pouvoir le faire. Celui qui porte un secours doit être celui qui a la possibilité des moyens. Si vous entendez qu'il y a une inondation en Bangladesh aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de morts et que les gens sont dans vitaire à donner l'argent, si vous n'avez pas l'argent à donner, en dépit de la sympathie que vous avez vis-à-vis de cette situation, vous n'allez pas pouvoir le faire. Dieu, notre Dieu, peut nous secourir parce qu'il est Dieu. Et la Bible nous dit que les cieux et la terre et tout ce qui renferme lui appartiennent. Quand notre frère a souligné tout à l'heure dans sa prière, il est Dieu le Créateur. C'est lui le Créateur. Et c'est lui qui a toutes les ressources que nous pouvons voir, imaginer, ou même pouvoir pas voir, parce que les ressources qui sont sous terre, sous sol, parfois on ne voit pas. Mais notre Dieu tient tout ça dans ses mains. Donc il peut nous secourir. Dans Exode, toujours chapitre 3, à partir du verset 7, nous lisons: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Et ce mot est très important, délivrer. La délivrance de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phériziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font s'ouvrir les Égyptiens. Maintenant, il dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'Éternel a entendu, il a vu la souffrance, il a pris maintenant la décision, après tant d'années de cette souffrance, de le faire sortir d'Égypte. Il a pris une ferme décision de les secourir. On aurait pensé qu'à partir du moment où notre Dieu, qui est l'autorité suprême, a pris cette décision, que les choses allaient si simples, allaient couler le source, comme on dit. Mais, frères et sœurs, l'exécution de cette décision, la mise en pratique, la mise en œuvre de cette, la réalisation de ce secours n'était pas si simple. Il a fallu beaucoup d'interventions puissantes par Moïse devant Pharaon, beaucoup de manifestations de la puissance de Dieu pour accomplir, pour que finalement cette décision soit réalisée, soit exécutée, la sortie des enfants d'Israël de la servitude dans laquelle ils se trouvaient en Égypte. Mais une chose qui est très importante de voir, c'est que Dieu, à un moment donné, est venu au secours de son peuple. On voit que la main puissante a finalement brisé la résistance des Égyptiens, parce qu'ils se sont rendus compte que le départ des enfants d'Israël et n'était pas favorable ni à leur économie, ni à leur vie sociale, ni à leur intérêt. Mais Dieu, quand nous voyons dans le chapitre 12, verset 29, a fait quelque chose qu'en fin de compte, les enfants des Égyptiens n'en pouvaient plus garder les enfants d'Israël. Au milieu de la nuit, les ténèbres frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appelait Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » Maintenant, ils ne pouvaient plus empêcher les enfants d'Israël de sortir, de partir. Et les enfants d'Israël sont sortis, finalement. Mais on aurait dû penser que ce serait un voyage simple parce que l'Éternel a ordonné cette sortie et Dieu était avec eux. Mes frères et sœurs, Psaume 107 nous dit clairement, Psaume 107, verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ils avaient faim, ils avaient soif. En dépit de cette réalité que cette sortie a été l'œuvre de l'Éternel. C'est pour ça, frères et sœurs, le jour où le Seigneur nous a porté à chacun de nous son secours pour sortir de la mort, pour devenir chrétien, pour accepter le Seigneur Jésus, et que nous commençons la marche avec lui, ne croyez pas que vous allez marcher, que ça va être une marche facile, sans pépins, sans problème, sans difficulté. Mais chacun peut aussi le dire, parce qu'il a vécu, que la vie chrétienne, la marche vers cette nouvelle vie, cette rencontre avec le Seigneur pour toujours être avec lui, lorsqu'il reviendra établir son royaume, c'est une marche qui est pleine de beaucoup de difficultés. C'est quelque chose qui est très important pour chacun de saisir. C'est pour ça que ce qui compte, ce ne sont pas même ces difficultés, ce ne sont pas même des problèmes que nous rencontrons, qu'il s'agit de maladies, qu'il s'agit de toutes sortes d'attaques. C'est de toujours revenir, crier à l'Éternel. Et qu'ils ont fait,
et qui les a délivrés de leur angoisse. Et c'est ça qui nous donne la consolation. Car au moment où, à partir du moment où le Seigneur nous a donné son secours, nous délivrer d'une situation quelqu'un donné, il ne nous a pas abandonné. Même si, humainement parlant, nous voyons, nous pouvons dire, oh, où est Dieu? Où est notre Dieu dans cette souffrance que nous traversons? Le secours de l'Éternel ne manque jamais. Quoi qu'il arrive, le secours de l'Éternel est une réalité. Les enfants d'Israël ont été secourus. Après tant d'années de souffrance, ils ont maintenant sorti de l'esclavage. Et c'est pareil pour chacun de nous. Nous étions perdus. Les ténèbres nous avaient sortis du royaume de ténèbres dans lequel nous étions, n'ayant pas encore, lorsque nous n'étions pas encore, nous n'étions pas encore convertis pour devenir chrétiens. Le deuxième exemple que je voudrais vous relever de secours de l'Éternel, c'est le cas de Daniel. Daniel. Et nous pouvons voir ce cas de Daniel dans Daniel chapitre 3. L'histoire de Daniel est bien connue par tout le monde. Daniel était un des enfants d'Israël qui a été amené en captivité par le roi en Babylone. Et l'Éternel l'a béni là-bas. Il était devenu. Il est entré au service du roi. Il était dans la cour du roi. Mais regardons Daniel chapitre 3. Verset. À partir du verset 8, Mario Diel, tu peux dire. Daniel 3, à partir du verset 8.
À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psaltérion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, de se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devrait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nabucadnetsar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nabucadnetsar prit la parole et leur dit : Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, que nous délivrer de la fournaise ardente, et nous délivrera de la fournaise ardente, de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère et changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils d'Élie. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers de roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. » Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu.
Merci. Il a reconnu que cette délivrance est venue de Dieu. Vous pouvez imaginer ce qui est le faux. Non seulement ce n'est pas un faux ordinaire, un faux très fort, hein, acte, mais ni même pas les cheveux, ni même pas les vêtements étaient brûlés. Et nous voyons là, frères et sœurs, que cette délivrance que Nebuchadnezzar même a reconnue est venue de notre Dieu. Ce qui montre la puissance, l'autorité que notre Dieu a sur même le feu. Quelqu'un qui est jeté dans le feu et le feu ne le brûle pas. C'est un miracle. Et qui peut faire les miracles? C'est notre Dieu. Je vous invite aussi à voir le cas de Pierre dans Actes chapitre 12. Pierre aussi, la délivrance, le secours que la ruse de l'Éternel a montré l'importance de ce phénomène. Le secours de l'Éternel. Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Bruno, tu peux le lire si tu as ta Bible.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. »
Maxi, le Seigneur a envoyé sa délivrance à Pierre. Vous imaginez, même la porte de fer s'ouvrir en elle-même et qu'il est sorti. Notre Dieu est digne de toute notre confiance pour nous porter son secours dans n'importe quelle situation. Nous avons vu ces trois exemples historiques, les exemples du passé. Mais la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 8, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ, Christ est le même. Hier, nous avons vu ce qu'il a fait hier. Aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je vais inviter trois personnes pour donner un petit témoignage de la réalité contemporaine de nos jours de secours de l'éternel. J'invite Marilène et Camille. Et ensuite, Monique, et ensuite, Isabelle. Ça, c'est la prolongation, c'est pour vous montrer la prolongation du secours de l'éternel, parce que nous avons vu l'aspect historique dans le passé, mais aujourd'hui encore, notre Dieu est à l'œuvre pour secourir ses enfants.
Oui, bonjour frères et sœurs.
Bonjour.
Nous venons ce matin vous témoigner de l'amour de Jésus. J'ai vu la première fois que je suis arrivée ici que quiconque invoque le nom de l'Éternel, du Seigneur, sera sauvé. Et c'est ce que nous avons fait tous les deux en Angleterre en 2011. Je laisse Camille vous raconter ce qui s'est passé, car il est vraiment grand.
La première partie du voyage, c'est-à-dire que notre fille qui habite en Angleterre nous avait invité à passer les fêtes de fin d'année chez elle. Alors, la première partie du voyage, parce qu'on faisait le déplacement en voiture, ça s'est très bien passé. Nous sommes arrivés à Dover sans problème. Et là, nous avons retrouvé notre fille avec ses quatre enfants qui nous attendaient. Alors, tout joyeux, on a pris la route en direction de sa maison. Et sur l'autoroute qui nous menait chez elle, c'est là que s'est produit l'accident. Nous étions à l'extrême gauche, parce qu'en Angleterre, on roule à gauche. Et l'autoroute était dégagée. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. J'ai vu dans mon rétroviseur un camion qui nous suivait sur la route parallèle à la nôtre. Elle allait beaucoup plus vite que nous. Elle est arrivée à notre hauteur et puis, sans raison apparente, il a ralenti, le camion a ralenti. Et puis, brutalement, il a tapé la portière arrière droite de notre voiture. Si bien, on s'est retrouvé devant le camion, sur le radiateur, c'est un gros camion, de travers. Et là, le gars, il n'a pas freiné. Il a continué à rouler. Et il nous poussait de travers, comme ça. Alors, naturellement, tout a pété en dessous de la voiture, les jantes et tout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ça y est, l'heure est arrivée. Mais moi, j'étais vraiment tétanisé, je ne pouvais rien dire. Et connaissant mon épouse, je savais qu'un rien l'effrayait. Alors j'ai jeté un œil à côté en tenant la portière, parce que la voiture secouait ainsi. Je voyais se rapprocher le bitume, je voyais éloigner. Et j'ai regardé à mes côtés, j'ai vu mon épouse, elle n'était pas du tout effrayée. Elle tenait un côté de la portière et le siège et elle priait. Elle disait, Jésus, arrête ce camion, par le sang de Jésus, que ce camion s'arrête. C'est ce qu'elle criait. Elle criait comme ça. Et puis aussi, j'ai jeté un œil derrière parce que nous étions quatre. Nous avions nos deux petits-enfants avec nous. Alors je me disais, comment ferais-je si je ne suis pas mort pour dire à mon fils que ses deux enfants sont morts? Parce que pour moi, c'était fini, un gros camion qui nous poussait de travers. Et en plus de ça, après qu'elle ait prié comme ça, là, je me disais, ça y est, c'est fini. Le camion a calé, comme par magie. Le camion s'est arrêté juste à côté d'une raille de sécurité. Et en dessous, il y avait le précipice.
Et des voitures.
Ouais, et des voitures qui passaient en dessous. Alors là, déjà, dans un premier temps, on suivait notre fille. Elle suivait l'accident dans son rétroviseur. Ces enfants-là nous ont dit, nos petits-enfants nous ont dit, maman criait, papa, maman, mais Dieu ne l'a pas permis de s'arrêter. Parce que si elle s'était arrêtée, ça aurait été vraiment la catastrophe. Mais Dieu a permis qu'elle roule. Et juste quand le camion s'est arrêté, elle aussi, à ce moment-là, elle s'est arrêtée. Alors, c'est pour dire que quand moi je suis sorti de la voiture, elle fumait, j'ai compris qu'elle allait prendre feu. Mais en fait, non, c'était les pneus qui, étant donné qu'elle était traînée de travers, alors le caoutchouc fumait. Alors Dieu a voulu que tous les quatre dans la voiture, nous étions sains et saufs. Les secours sont arrivés
tout de suite.
Parce qu'il y avait un bonhomme qui travaillait sur la route des ponts et chaussées.
Oui.
Quand il a vu ça, il s'est dit, ça y est, ils sont tous morts. Ils sont tous morts là-dedans, on ne peut pas s'échapper après un tel accident. Il est arrivé en premier et ma fille, était impossible d'appeler les secours. C'est lui qui a appelé les secours. Ils sont arrivés tout de suite. Et puis les SAMU, le SAMU et tout. On a examiné les enfants et tout. Personne n'avait rien. Alors, c'est pour vous dire la force de Dieu. Parce que là, on a été convaincus que c'est Dieu qui nous a sauvés. Alors.
Et moi, donc, pendant ce temps.
Ouais.
Je suis entrée dans quelque chose que je ne pouvais pas vous raconter. C'est-à-dire, j'avais la paix, j'étais content. Je ne demande pas que ça arrive encore, mais j'ai eu quelque chose que je n'ai pas pu expliquer après à Camille jusqu'à présent. La seule chose que je peux dire au Seigneur, souvent, je sais que je suis faible. Le Seigneur voit ma conscience, il sait, quand je lui dis Seigneur, je t'aime, c'est pas pour rien. C'est parfois simplement, notre vie a changé. En ce qui me concerne, ma vie a changé. Et un merci, quelquefois, quand il nous répond dans nos prières, n'est pas assez, alors je lui dis Seigneur, je t'aime. C'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire, que Dieu est bon. C'est pas par arrogance ou non, le Seigneur, je sais qu'il n'est pas un homme. Le Seigneur nous connaît, il peut lire dans chaque conscience, c'est ce qu'il nous a tous créé. Je lui dis souvent, Seigneur, je t'aime. Amen.
Amen.
Voilà, bonjour, je suis très émue d'avoir cette possibilité aussi de vous partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Inam et moi, il y a longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années, je dois remettre les années bien en rapport avec aujourd'hui, je dirais il y a exactement 24 ans. Donc nous vivions au Nigeria, Inam et moi, un pays dont on m'avait dit qu'il y avait des dangers. Mais paradoxalement, c'est en fait après que nous ayons décidé de rentrer en France que nous avons été confrontés à à ce que le Nigeria est, hein, c'est-à-dire un pays grande dynamique, mais il y a des dangers. Alors, autre paradoxe, c'était le 31 décembre, et Ina m'avait décidé, il me l'avait fermement dit le soir, que malgré le fait que nous avions déjà subi un vol à main armée devant notre maison, le 1er septembre, je rentrais de France, et bon, des jeunes sans emploi s'étaient saisis de notre voiture, voilà. Moyennant donc menace bien sûr avec une arme. Bon. Et mon mari m'a dit, mais moi je n'ai jamais manqué un réveillon, jamais de toute ma vie. Donc je veux vraiment aller remercier le Seigneur. Moi j'avais un autre sentiment, donc je lui ai déjà dit que j'avais vraiment très mal la tête, assez marquée, ce qui m'arrive rarement, et je l'ai dissuadé de cette idée. Avec ce mal de tête, j'avais aussi un sentiment très fort que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, sortir ce 31 décembre. Et nous avons eu un mouvement contraire sans nous le dire. Mon mari est allé fermer la voiture sans me le dire pour ne pas sortir, et moi j'ai fait le contraire. J'ai regagné notre chambre et je me suis... Alors, on n'avait pas d'électricité, on avait pris l'électricité, je me rappelle, j'avais pris une petite bougie et je me suis mise à prier pour tous les dangers possibles. Hein. Bon, même la police, hein, je ne veux pas vous effrayer, mais il y a des comportements le 31 décembre où on peut dire qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à la police. Enfin bref, je me suis appuyée sur un psaume qui est le psaume 121, que depuis j'aime énormément. Il concentre pour moi vraiment toute cette expérience. L'Éternel, voyez-vous, je prendrai avec vous volontiers le verset 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et pour ma part, vu la fermeté de mon mari, je ne voulais pas le laisser partir tout seul, évidemment. Et mon mari travaillait à Bouygues, il avait une voiture de fonction, qui était d'ailleurs très convoitée. Hein, Peugeot 504, très convoitée. Et le mot départ, pour moi, c'était cela qu'il fallait vivre. Alors bon, je vous ai bien expliqué, j'ai prié pour tous ces dangers. Et mon mari, lui, avait fermé la voiture. Nous sommes partis. Et c'est extraordinaire parce que au sortir de l'église, bon, il faisait vraiment très très chaud. On est parti un tout petit peu, mais quelques minutes, vraiment très peu de minutes à l'avance. La fin du culte, enfin la fin de ce, voilà, de ce réveillon. Et il fallait, pour regagner, si vous voulez, notre domicile, on va dire, faisait 20 km, hein, bien comme il faut pour 20-30 km, enfin, il fallait prendre un toboggan. Voilà. Et mais c'était rapidement, au sortir de l'église, on gagnait, n'est-ce pas, la grande autoroute par le toboggan. Et le toboggan avait deux voies. Voilà. Et au pied du toboggan, nous avons vu, ben, tous les deux, on était saisis par la vitesse à laquelle, n'est-ce pas, une fameuse Peugeot 505 nous doublait. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit à mon mari, mais que fait ce véhicule? Et sans se douter, hein, qu'en fait, au sommet du toboggan, arrivé, si vous voulez, au sommet du toboggan, ces gens avaient décidé de nous piéger et de nous bloquer. Donc, en fait, en milieu de la route, hein, il n'y avait plus d'accès. Il n'y avait pas d'accès. Car, en effet, lorsqu'ils se sont arrêtés, ils ont reculé vers nous et arrivé à hauteur de notre voiture. Bon, l'un des passagers avait sorti une arme, hein, c'est évident que là, c'était vraiment le piège. Je vous le dis franchement, je me suis étonnée, j'étais très émue par le témoignage de Marie-Hélène et Camille. Quand je revois les choses, je ne sais pas comment, je n'ai... En fait, le Seigneur, je crois, m'a imposé son silence, sa paix, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et mon mari a dit, savez, il y a quelques secondes qui s'écoulent, le temps qu'on veuille vous bloquer, les choses vont vite. Et mon mari a dit, Lord Jesus, help us, Seigneur Jésus, aide-nous, viens à notre secours. Au moment de dire non, c'est Seigneur Jésus, viens à notre secours. Et comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de passage, il n'y avait pas. Il était au milieu, deux fois, c'était terminé pour nous. Et à ces mots, vous pouvez vous le représenter, mon mari a eu l'idée, le secours du Seigneur. Il a donné un coup de volant sur la gauche pour en fait permettre à la roue avant gauche de se hisser sur le parapet. Il y avait un petit parapet en fait de quelques centimètres qui pouvait être bloqué. Bien sûr, nous étions bloqués. Mais avec cette, si vous voulez, cette démarche, là, je ne peux pas vous expliquer différemment, ça s'est passé comme ça. La roue est montée sur ce parapet et nous avons pu avoir la voie libre. Et si vous me permettez, je vais simplement terminer, je ne veux pas en dire plus. Je vais terminer sur ces paroles. Dans le psaume 118 que je citais à une sœur qui n'est malheureusement pas là ce matin, hier soir, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Voilà. C'est tout.
Isabelle pour le nom.
Bonjour. C'est vraiment pas que on a une grande foi, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Et je pense que on donne des témoignages, c'est vraiment pour glorifier le Seigneur, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre toutes ces dominations, cette pensée du monde qui dit qu'on va pas réussir, que oui, le monde. Et c'est pour ça que je remercie Inam de pouvoir donner ce témoignage. Bon, la majorité d'entre vous connaissent déjà comment nous sommes arrivés en France. Quand nous sommes arrivés en 2006, on a quitté Madagascar pour une année sabbatique. Et donc voilà que Renaud est tombé malade 3 jours après. Et première difficulté financière, c'est que quand il était hospitalisé, nous n'avons pas encore fait nos papiers au niveau de la sécurité sociale et tout ça, alors que son hospitalisation, c'était quand même une réanimation en service de neurologie, et c'était 900 euros par jour. Donc on a demandé vraiment au Seigneur comment faire. Donc les 10 jours, c'est 9000 euros. Et premier secours, c'est qu'on n'avait rien eu à payer. Merci Seigneur, parce que vraiment, on n'avait pas donc payé les frais d'hospitalisation, mais seulement parce qu'il n'avait pas encore la sécurité sociale, il n'a pas pu faire la rééducation. Mais merci Seigneur, parce que si vous voyez Renaud, vous ne pensez pas qu'il est passé par là. Mais la deuxième chose que j'aimerais vraiment témoigner aujourd'hui, c'est que quand nous avons quitté Madagascar, on s'est dit, bon, Renaud, 64 ans, c'est pas toi qui vas travailler, c'est moi maintenant, parce que je travaillais avant, j'ai dû donc demander une disponibilité pour une année à mon travail à Madagascar. Donc c'était prévu que c'est moi qui allais travailler. Mais vu ce qui est arrivé, on n'a pas pensé que je travaille, que je cherche du travail. Alors, Seigneur, on n'avait que 200 euros par mois à ce moment-là. Et je pense que tout le monde passe par des difficultés, mais nous, notre difficulté, c'est au niveau des finances. c'est toujours des situations financières, mais là, toujours le Seigneur intervient au bon moment et vraiment plus que ce que nous demandons. Donc en 2007, une année après, quelques mois après l'accident, nous sommes venus à Chartres présenter le travail de la mission pour Madagascar. Et là, aussi bien l'Église que nous, en tant que famille, on avait vraiment cette conviction que oui, on aimerait être à Chartres. Et donc, Renaud et moi, nous avons pensé que c'est Isabelle qui va travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Eh bien non, le Seigneur a donné donc ce poste de ministère de Renaud ici à Chartres. Et vraiment, c'est ce que je voulais dire. Seigneur, toi, tu es fidèle. Tu donnes au moment. Qui aurait pensé que Renaud, après son accident vasculaire, pourrait encore assurer? On est venu à Chartres pour une année ou deux ans, mais on a fait les cinq ans. Et c'est vraiment, j'ai dit, Seigneur, c'est que toi, tu es fidèle. Et je pense que je veux toujours revenir sur ce Philippiens 4 que nous connaissons bien, mais parce que j'ai ce que moi je pense par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés, c'est que mes difficultés d'hier m'ont permise de vivre le secours de l'Éternel. Les difficultés d'aujourd'hui me donnent l'occasion de m'accrocher à ces promesses, à ces paroles qui sont vraies. Et mes difficultés de demain, ben, elles appartiennent au Seigneur. Alors, j'aimerais quand même relire Philippiens 4. C'est pour m'encourager, mais aussi encore proclamer que le Seigneur, il est bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par vos amabilités envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. À Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Vraiment, je donne ce témoignage vraiment pour la gloire de Dieu, parce que sa parole est vraie. Et j'aime beaucoup ce qu'il est dit là, parce que j'ai expérimenté la réalité de Dieu dans mes difficultés d'hier, que dans mes difficultés aujourd'hui, je m'accroche à ses promesses, à sa parole qui est vraie, et pour le lendemain, merci à Dieu. À lui soit la gloire.
Hébreux chapitre 8, verset 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.